Yeah. À la une, les derniers chiffres de l'emploi, cette nouvelle formation, une section internationale au lycée, l'histoire de ce beluga espion et enfin le FIFO pour terminer, vous entendrez le président du jury. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
La croissance des chiffres de l'emploi se poursuit, mais les jeunes en profitent moins que les autres.
Oui, l'Institut a donné son analyse des derniers chiffres de l'emploi. En 2024, 57,7% des Polynésiens avaient du travail. 3700 personnes en plus qu'en 2023. Les entreprises ont davantage embauché et les Polynésiens ont été plus nombreux à créer leur entreprise ou leur activité. Le taux d'emploi a progressé de 5 points depuis 5 ans. Le marché se porte donc bien, ce qui n'est pas une surprise pour l'ISPF vu la santé économique du pays ces deux dernières années. On écoute le responsable de cette enquête, Charlie Baudet.
Alors oui, 2023 est aussi le début de 2024 avec un regain touristique que l'on constate dans les secteurs traditionnels, hôtellerie, restauration, mais aussi dans le transport et les autres services qui sont liés au tourisme. Elle profite surtout aux 30 ans et plus et très peu aux 15-29 ans. Voilà, ça c'est ce qu'on constate dans l'enquête.
Voilà, les plus jeunes qui profitent moins donc du dynamisme économique, les 15-29 ans qui voient leur taux d'emploi progresser 3 fois moins vite que celui de leurs aînés. L'ISPF note également que 55 600 personnes en âge de travailler ne souhaitent pas travailler. C'est un peu plus de monde que l'année dernière. Et quant au halo du chômage, il atteint un peu plus de 12% de la population, soit plus de 22 000 Polynésiens. Et la Polynésie s'en sort bien comparée aux autres territoires ultramarins.
Quoi, en Polynésie française, il reste plus de 10 points moins importants qu'en France métropolitaine, mais comparé à d'autres territoires d'outre-mer, il est semblable à la Nouvelle-Calédonie avec les données de 2022 et il y a d'autres départements d'outre-mer où le taux d'emploi est plus bas et par contre il est semblable à, je crois, la Martinique, mais c'est plutôt correct par rapport aux autres départements d'outre-mer.
Et l'ISPF a déjà lancé son enquête 2025. Il s'intéressera aussi aux Marquises, en plus des foyers de Tahiti, Moorea et des Raromatei.
Maintenant, on parle formation. Deux classes de seconde internationale vont ouvrir à la prochaine rentrée.
Une section australienne au lycée du Diadème et une section américaine au lycée de Taiarapunui. Ce dispositif, déjà en place en métropole, offrira aux élèves sélectionnés une immersion renforcée en anglais avec 6 heures d'enseignement supplémentaire en langue vivante. Il leur permettra également d'approfondir leur connaissance des cultures anglo-saxonnes. À la clé, les lycées pourront obtenir le baccalauréat français international, ce qui leur ouvrira les portes des établissements d'enseignement supérieur du monde entier. L'inspectrice et chef du département orientation à la DG2E évoque déjà des échanges linguistiques avec l'Australie et les États-Unis. On écoute Nathalie Novelli.
Du fait de nos partenariats avec donc les États-Unis et l'Australie, ce sont ces liens forts qui sont importants aussi pour nos élèves en termes de poursuite d'études, parce qu'ils vont être connus aussi par l'établissement qui va nous accueillir. Comme nous, on va accueillir aussi leurs propres élèves à un moment dans le cadre d'un séjour linguistique. C'est un vrai plus pour nos élèves en termes de poursuite d'études également.
L'Australie et les États-Unis, deux destinations très prisées par les jeunes Polynésiens. Selon Nathalie Novelli, plusieurs lycéens du Fénois effectuent déjà des périodes de stage en milieu professionnel. L'ouverture de ces sections répond donc à un réel besoin, d'autant plus que la Polynésie tisse depuis plusieurs années des liens économiques et culturels forts avec ces deux nations anglo-saxonnes. Alors, comment faire pour intégrer ces sections internationale, voici la réponse.
Un des premiers, c'est surtout la motivation, l'intérêt pour les langues vivantes, parce que pendant un certain nombre d'heures, on a des enseignements en anglais, notamment l'histoire par exemple. C'est aussi avoir une maîtrise quand même de l'anglais pour permettre aussi une discussion, parce qu'il y a ce côté aussi relation. Ça, c'est la toute première étape. La motivation et un niveau suffisant pour bien appréhender la relation et l'échange.
Les inscriptions pour ces secondes bilingues ne sont pas encore ouvertes, elles se feront via les collèges d'origine des élèves de 3e.
On poursuit avec une question, la campagne des municipales aurait-elle déjà commencé?
C'est ce que dit Muéthei Broverson dans un message posté sur Facebook hier. Le président du pays se fâche et reprend les informations données par une association de la vallée de Hahonu à Mahina. Sur Polynésie la Première, cette association affirmait que sur les 36 logements OPH de la résidence Fatia Mei, seuls 5 avaient été attribués à des habitants de la commune et tous les autres à des habitants de Faa. C'est l'inverse, assure Muéthei Broverson. Sur les 36 logements, 31 ont été attribués à des familles originaires de Mahina et 5 à des familles de plusieurs communes. Il dément formellement les accusations de favoritisme dans l'attribution de ces logements et dénonce une campagne de désinformation pour gagner les prochaines élections municipales. Et le président du pays répondait en tant que chargé du portefeuille du logement, mais ça devrait bientôt changer. Orai Homana Teururei, conseiller technique du président du pays depuis juin 2024, va prendre les commandes du ministère du logement. Sa nomination doit être publiée le 14 février. Il restera localisé à la présidence.
On reste dans le logement, mais touristique cette fois-ci.
Pas de piscine ni de restaurant, mais un hôtel urbain installé à un emplacement stratégique. En construction depuis 2023 à l'angle de la rue des Remparts et de l'avenue Prince Sinoy, le Reva Tahiti sera un 2 étoiles de 43 chambres. Il sera géré par Soft Pacific Management qui s'occupe déjà de 2 îles privées et 2 hôtels. La cible du Reva Tahiti, la clientèle d'affaires et de transit, qu'il s'agisse de professionnels en déplacement ou de touristes en attente de vol ou d'un départ en croisière.
Justice en bref avec cette affaire classée sans suite pour le beau-fils de Muay Thai Brotherson.
Christian Wang Sang était soupçonné de détournement de fonds publics pour avoir continué à toucher un salaire de chef de cabinet pendant plusieurs mois alors qu'il avait changé de poste. L'enquête a donc conclu à un classement sans suite. Son salaire était resté en deçà des plafonds réglementaires.
Justice toujours avec cette inquiétude concernant les huissiers.
Vendredi dernier, lors de l'audience solennelle de rentrée, le procureur général près la cour d'appel, Frédéric Bennett Chambellan, a fait part de ses préoccupations sur les huissiers de justice. Pas de revalorisation salariale depuis 1986. Des délais de paiement particulièrement longs et des conditions de travail difficiles. Compliqué désormais de recruter au niveau Master 2. La Polynésie française ne compte que 5 huissiers de justice, dont 2 qui songent à arrêter.
Il est 7h06. Connaissez-vous l'histoire de Valdimir ? Ce beluga est apparu en 2019 sur la côte nord de la Norvège.
Il était alors équipé d'un harnais avec une inscription russe, surnommée la baleine espion. Il a ensuite été une véritable star des réseaux sociaux pour ses connexions avec les humains, rapportant des objets qui tombaient à l'eau ou encore jouant au ballon avec des chercheurs. Fabrice Schnoller, ingénieur en acoustique et né à Tahiti, a co-réalisé un documentaire sur son histoire qu'il présentera au cinéma Majestic jeudi prochain.
Il arrive vraiment à lire nos émotions, à lire nos expressions faciales et à agir en faisant ce qu'on a envie qu'il fasse en fait. Alors on pourrait dire que c'est du dressage. Moi j'ai trouvé chez Valdimir cette capacité d'empathie qu'on a souvent du mal à montrer chez les animaux et qui chez lui est spectaculaire. Et donc j'y ai vu vraiment l'opportunité de faire un sujet plus sur la conscience animale que sur cette histoire d'espionnage qui fait partie du film bien sûr, qui fait partie de son histoire. Mais ce qui est vraiment exceptionnel chez Valdimir, c'est cette capacité qu'il a eu à s'intégrer à la société humaine. Pendant 4 ans, il a nagé le long des côtes de la Norvège, qui est un pays qui chasse encore la baleine, et il a retourné tout le monde.
Voilà, il a retourné tout le monde et la connexion avec les hommes était si incroyable que Valdimir est devenu une star. Avec ce documentaire, Fabrice Schnoller veut montrer une autre image des animaux.
Ce qui fait la particularité de l'être humain, c'est cette capacité qu'on a à être solidaire, à s'aimer, à avoir des familles, à nouer des réseaux sociaux, et c'est peut-être même le plus important chez nous. Et ces animaux-là partagent ça avec nous. On a tendance à dire qu'il faut protéger les baleines pour que nos enfants voient les baleines. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin du film, les gens se disent qu'il faut qu'on protège les baleines parce que les baleines, elles aussi, aiment leurs enfants.
Valdimir, la véritable histoire du beluga espion, sera présentée au Majestic, donc jeudi prochain à 18h30. Une conférence débat suivra la projection avec Fabrice Schnoller et Jérôme Delafosse, co-réalisateur, et le docteur Michael Poole, expert en mammifères marins en Polynésie.